Les Américains sont nos alliés, parfois pas tout à fait nos amis, et en l'occurrence, ils ont une pratique de l'intelligence économique qui est certainement celle qui est la plus à enseigner dans nos universités, dans nos écoles, dans les mois, les années qui viennent. Enfin, c'est assez extraordinaire comme façon de faire.
Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique. On prend les mêmes et on recommence semaine après semaine, c'est-à-dire Fabrice Epelboin. Salut Fabrice.
Bonjour Bertrand Lenôtre.
Damien Douani, salut Damien.
Bonjour Bertrand. Et bonjour Bertrand Lenôtre.
Bonjour. Et on est tous les trois pour parler aujourd'hui globalement, hein, on va le dire globalement, de souveraineté. C'est un sujet dont on ne parle absolument jamais dans ce podcast. Jamais.
Jamais.
Je crois que c'est la première fois en 155 épisodes ou 160 qu'on va l'aborder.
160.
160, voilà, qu'on va aborder ce sujet-là. Et comme on n'est absolument pas du tout au courant de ce qui se passe dans ce sujet-là, on a besoin d'un invité à sérieux, du vrai, du dur. Et on fait revenir Philippe Latombe. Bonjour Philippe Latombe, monsieur le député.
Bonsoir, bonjour.
Député Modem de Vendée et quelqu'un qui est un des rares députés, on le dit à chaque fois, mais il faut toujours le rappeler, qui connaît vraiment, vraiment les sujets numériques aujourd'hui. Donc qui a sa place, son rond de serviette presque dans cette émission, dès qu'il veut venir manger un petit morceau avec nous pour parler de différents sujets. On va parler aujourd'hui du rapport de la DGSI sur les cabinets d'audit étrangers qui pillent allègrement certaines données de certaines entreprises. On vous dira dans quelles conditions. On parlera de Nvidia, vous savez, les puces Nvidia. On a besoin de puces pour faire de l'IA. Alors c'est bien, Mistral, avec un peu de français, puis pas mal de fric américain aussi, est en train de cartonner. Mais il faut des puces pour faire tout ça. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir des puces qui soient un petit peu souveraines, comment on va faire? On va parler de ce qui nous a bien fait rire aussi, les données des centrales nucléaires françaises chez AWS, chez Amazon, et puis Google qui accuse Microsoft de viser un monopole sur le cloud, ça c'est la cerise sur le gâteau, pour vraiment terminer sur un gros éclat de rire. On va donc parler de tout ça. On commence par ce rapport de la DGSI, en fait, sur l'ingérence économique via les cabinets d'audit étrangers et les lois extraterritoriales. C'est sorti il y a quelques semaines, Philippe, on a tous un peu été intéressés par ce qui s'est dit sur ce rapport-là, qui en fait décode tout simplement la façon avec laquelle certains cabinets d'audit, mandatés par des pseudo-investisseurs dans des entreprises, des investisseurs américains ou autres, viennent piller des données d'entreprises françaises et des données sensibles en fait.
C'est effectivement un des points de l'intelligence économique américaine, parce qu'on parle en fait très clairement, il faut qu'on se dise les choses, ce ne sont pas des cabinets de conseil chinois ou russes, ce sont des cabinets de conseil américains qui utilisent la réglementation extraterritoriale américaine pour récupérer une partie des données stratégiques des entreprises européennes et notamment des entreprises françaises, quelle que soit leur maturité d'ailleurs. Ça peut être des entreprises, ce sont des entreprises qui peuvent être des start-up comme des entreprises un peu plus grosses et avec des pratiques qui sont des pratiques légales, il faut le dire. Il n'y a absolument rien d'illégal dans ce que pointe du doigt la DGSI. Ce sont simplement des stratégies de la part de ces cabinets, de la part de l'État américain et donc de l'écosystème américain pour pouvoir mettre la main sur soit des entreprises, soit des informations nécessaires à la poursuite de l'activité économique américaine. Voilà. Les Américains sont nos alliés, parfois pas tout à fait nos amis. Et en l'occurrence, ils ont une pratique de l'intelligence économique qui est certainement celle qui est la plus à enseigner dans nos universités, dans nos écoles, dans les mois, les années qui viennent. Enfin, c'est assez extraordinaire comme façon de faire. En revanche, c'est la première fois que la DGSI prend publiquement la parole sur le sujet, pointe du doigt les systèmes mis en place par nos amis américains. Ce qui est une première, vraiment, je pense qu'il faut le noter, c'est que la DGSI prend son courage à deux mains et dit les choses en les nommant et en les justifiant, en les éclairant par des exemples qui ont été très criants.
Donc on est 10 ans après Edward Snowden, donc c'est pas extrêmement rapide comme vitesse de réaction, mais mieux vaut tard que jamais finalement. Et là, on n'est même pas dans le cas de Snowden où c'est de l'espionnage, pas traditionnel, mais en tout cas du vol de documents. On est clairement dans une pratique parfaitement légale qui permet de façon parfaitement légale à l'État américain de piller des secrets industriels pour alimenter sa propre industrie. C'est quelque chose qui est finalement tristement banal. Mais
c'est pas nouveau, je suis d'accord Fabrice, c'est pas nouveau du tout. C'est simplement En revanche, la première fois que la DGSI, dans son rôle de protection des intérêts stratégiques de la nation, dit les choses, les nomme et en fait une publication aussi claire que possible. Et c'est vraiment ça qu'il faut noter. C'est que nous avions des pudeurs de gazelle, selon l'expression consacrée depuis des années. Pour une fois, les choses sont dites de façon claire et posée. Et ça, c'est nouveau et c'est intéressant.
D'ailleurs, Philippe, est-ce qu'on sait pour quelle raison ce flash, alors pour ceux qui veulent le lire, je le cite, vous allez sur le site de la DGSI, enfin notamment de la ministère de l'Intérieur, vous cherchez le flash DGSI dièse 99. Voilà, il y a 5 pages à lire, elles sont très bien faites, elles sont hyper claires. Pourquoi ça sort maintenant? Question un peu bête, hein, mais pourquoi est-ce que d'un seul coup, comme vous dites, ils prennent leur... Voilà, on les attendait pas et d'un seul coup, boum, ils nous sortent ça.
Ils sortent du bois sur ce sujet-là, finalement.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Parce que l'ordre mondial est en train de changer. Je pense qu'il faut quand même qu'on se mette dans la perspective de ce qui se passe en ce moment. Nous avons une crise en Ukraine, qui est une guerre, pour pas la nommer, pour laquelle nous avons besoin des Américains en termes d'appui stratégique, de protection de l'Europe, de fourniture de munitions, de fourniture de gaz pour les Allemands. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui font que... De l'autre côté, nous avons les Chinois qui ont été très virulents depuis des années et qui s'opposent aux Américains. Et aujourd'hui, la DGSI se pose la question, c'est comme ça que je l'interprète, de savoir si elle n'est pas au milieu de ce champ de bataille et que du coup, il faut qu'elle arrive à montrer qu'elle, un, a la capacité de nommer les choses et deux, qu'elle a la capacité à trouver un chemin, une sorte de troisième voie entre les Chinois, les Russes et les Américains de l'autre côté. Et aujourd'hui, la dépendance économique à l'écosystème américain, qui n'est même plus un écosystème, qui est une sorte de monopole ou d'oligopole sur un certain nombre de sujets stratégiques, technologiques, fait que la DGSI s'inquiète pour l'avenir. C'est son rôle. C'est bien qu'elle en prenne conscience, c'est encore mieux qu'elle le dise. Et aujourd'hui, ça, je pense, ça éclaire les messages qu'un certain nombre d'entre nous pouvions poser depuis plusieurs années. Ça le légitime et ça montre bien que c'est partagé par l'administration. Et quand l'administration française dit les choses, ça a tendance à infuser un peu mieux que quand ce sont quelques rares politiques ou éclaireurs, pour reprendre un terme qui vous est cher, qui le disent. Voilà. Donc je pense que c'est bien que la DGSI se mette dans cette ligne-là.
On est au tout premier pas d'une potentielle prise de conscience de la réalité de la souveraineté par l'exécutif, hein, parce que c'est là qu'il y a un léger souci, qui était d'ailleurs illustré par le fait que Amazon va récupérer les données du nucléaire, ou Microsoft, je n'ai même pas fait attention à lequel des grands acteurs.
C'est Amazon.
C'est Amazon. Donc cette fois-ci, c'est Amazon. C'est Amazon. Donc Amazon a les données du nucléaire, Microsoft a les données de santé. Et tout d'un coup, effectivement, l'armée se dit que ça suffit des bêtises et peut-être qu'il faudrait... Je ne sais pas.
Oui, alors on reparlera d'AWS et d'EDF, on parlera de Microsoft et de santé si vous voulez. Il y a d'autres trucs qui aujourd'hui, moi, m'inquiètent beaucoup. Salesforce est en train de prendre des parts de marché à bas bruit et à devenir quelqu'un de très, très important. Et je pense qu'à la vitesse à laquelle ils vont, il va falloir qu'on rebaptise le GAFAM qui était rebaptisé en GAMAM dans un autre terme. Je pense qu'il faudra qu'on y rajoute Salesforce à un moment. Mais oui, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'administration, des pouvoirs publics, d'un certain nombre de politiques, non, de l'administration beaucoup plus. Et ça devient quelque chose d'important. Je sens aujourd'hui, pour en discuter avec différentes personnes au SGDSN, à l'ANSSI, un peu partout, que ça commence à infuser, qu'aujourd'hui nous sommes dans une forme de domination économique et informatique de la part des Américains qui n'est pas compatible avec notre vision du monde, notre vision de la société et de notre vision de ce que nous avons comme valeur de liberté et d'indépendance. Et ça, c'est nouveau et vraiment, pour moi, c'était important que la DGSI le fasse et qu'on le mette en avant et je suis très content que vous le fassiez aussi. Parce que c'est la première fois de façon aussi claire qu'il y a un écrit. Avant, ça pouvait se dire de temps en temps, ça se disait à bas bruit, ça se disait dans des cercles un peu fermés. Là, il y a eu une communication. Et le fait que la DGSI, qui pourtant a besoin des Américains en termes de renseignements, notamment sur une partie terroriste, le disent, c'est aussi de rééquilibrer la relation qu'ils ont avec les Américains. Et ça, c'est quelque chose d'important.
C'est une façon de mettre l'accent sur l'espionnage économique, qui est vraiment une activité qui passe par ces cabinets d'audit ou de conseil, mais pas que, et loin de là, et qu'on en a parlé souvent. Il y a des organismes d'État américains dont le métier est de récupérer de la donnée économique, notamment pour favoriser les entreprises américaines en données intéressantes. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies maintenant, donc c'est quelque chose sur lequel on peut mettre le doigt à travers ce rapport.
Oui, alors ce rapport, il pointe la capacité des Américains via les cabinets d'audit. Là, par contre, ce sont des choses légales. On ne parle pas du tout de ce que la NSA a pu faire à certains moments. On ne parle pas de ce qui s'est passé quand ils ont espionné les téléphones d'Angela Merkel à une bonne époque. Nous allons oublier au bout de 6 mois, il s'est passé des choses. Mais oui, il y a une capacité d'intelligence économique des Américains qui est assez phénoménale. Intelligence qui passe par tout. C'est ce que dit la DGSI, mais c'est aussi ce qui s'est passé avec VadeSecure pendant plusieurs mois aux États-Unis. C'est-à-dire que avec une procédure judiciaire, avec un juge américain un peu complaisant, on est en capacité de récupérer et de demander de façon obligatoire la récupération de données mail, de données de serveur de façon large, pour permettre l'auto-incrimination. En fait, c'est ça l'idée de ce qui s'était passé avec VADE, avec VADESecure. Là, les cabinets d'audit utilisent une méthode un peu plus douce, c'est « dites-moi qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que vous soyez conforme avec la réglementation américaine. Ah, là, vous n'êtes pas totalement conforme. Vous devriez vous auto-incriminer, donc vous dénoncer et donc quasiment payer l'amende tout de suite. » Et si, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce que dit la DGSI, c'est pas les autorités américaines qui les demandent, ce sont les cabinets de conseil qui provoquent l'auto-incrimination de la part des entreprises françaises quand elles ont besoin. Et ça, c'est nouveau.
C'est interdit par la loi, ça, enfin interdit entre guillemets, mais il y a des lois qui régissent en fait la transmission d'informations des entreprises à des pays étrangers ou des structures étrangères, en fait, il me semble, non ?
En France, oui. C'est-à-dire qu'en Europe et en France, oui, l'auto-incrimination est interdite. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Donc si vous êtes une entreprise européenne et française en l'occurrence, qui veut adresser le marché américain et que vous avez commis à un moment ou à un autre un délit, voire un crime vis-à-vis du droit américain, si jamais vous vous auto-incriminez, la sanction sera légèrement plus faible. Elle sera plus faible. Mais ça nécessite de pouvoir faire un certain nombre de démarches. Si jamais vous ne le faites pas et qu'on vous chope, là, par contre, ça sera plus lourd. Et ce que les cabinets de conseil font, c'est de dire, entre les deux sanctions, il vaut mieux la plus légère. Donc, auto-incriminez-vous, donnez les informations, ça sera plus léger pour vous. Sachant que les Américains ont un gros avantage, c'est que les sanctions ne sont pas des sanctions simplement commerciales, ce sont des sanctions pénales de niveau fédéral et qu'il n'y a aucun dirigeant d'entreprise française, de près ou de loin, qui a envie de passer 10 ans dans une prison fédérale américaine. Voilà.
Surtout après l'affaire Alstom.
Surtout après l'affaire Alstom, qui a été quand même retentissante. Et il faut aussi dire que les Américains ont des accords d'extradition avec quasiment tous les pays du monde. Donc ça veut dire que ça, si vous n'obtempérez pas, vous restez coincé sur le territoire national pendant des dizaines, voire des vingtaines ou des trentaines d'années. Parce que vous ne pouvez même pas aller en Angleterre, qui a un accord d'extradition avec les Américains. Vous ne pouvez pas aller au Canada parce que c'est la même chose. Vous ne pouvez pas aller en Israël, c'est la même chose. Enfin, tous les pays du monde quasiment vous sont coupés. Il ne reste pas grand-chose à part le Venezuela et quelques pays du sud-américain pour lesquels il n'y a pas d'accord d'extradition. Et donc ça veut dire que quand vous êtes un dirigeant d'une entreprise à vocation au moins européenne, voire mondiale, vous ne pouvez plus circuler au milieu de vos filiales. Donc ça veut dire que ça vous bloque complètement.
Bon, ça veut dire, cette histoire de la DGSI, que à la tête de l'État, tous les conseillers ne peuvent pas faire semblant de ne pas savoir aujourd'hui. Tout le monde est au courant, l'était déjà, mais maintenant c'est officiel.
Voilà, c'est le gros avantage de ce que dit la DGSI, c'est avant, tout le monde le savait, mais on n'en parlait pas. Maintenant, tout le monde, y compris le grand public, sait qu'à partir du moment où on a diffusé cette information, on ne peut plus faire semblant. Ce qui est une nouveauté.
Si ce n'est que je n'ai pas la sensation que dans les médias, on va dire grand public, il y ait eu beaucoup de retentissement autour de cette note. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'elle a quand même une implication ou un décryptage, comme le disait quelques instants, qui... qui est assez probant. Une question, on sait que notre gouvernement aime beaucoup McKinsey. Est-ce que justement, il y a... bah oui, mais bon, attends.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts entre McKinsey qui fait la politique française et les États-Unis?
Voilà.
Oui, évidemment. Non, mais faut appeler un chat un chat. Enfin, j'ai beau être affilié, cousin de la majorité, je vais vous le dire de façon claire, il faut qu'on arrête avec les cabinets de conseil, il faut qu'on arrête avec McKinsey. C'est pas méchant quand je dis ça, il y a certainement des gens très intelligents chez McKinsey, mais nous avons un problème que nous ne pouvons pas régler là aujourd'hui sans avoir une politique européenne qui soit d'immunité aux règles extraterritoriales américaines ou, à l'envers, de règles européennes qui soient des règles extraterritoriales. Et donc, nous ne pouvons plus, aujourd'hui, avoir des informations qui sont aussi sensibles dans des cabinets de conseil comme cela. La DGSI le dit. Voilà. Ça, et si je tire le fil, il faut être très clair, je trouve ça, même si c'était des cabinets européens ou français, je trouverais ça très particulier que toutes les conversations se passent via de la téléphonie sur Teams. Voilà, je le dis de façon claire. Des informations entre un associé d'une boîte de conseil stratégique qui conseille une boîte française qui a envie d'aller adresser des marchés à l'étranger, je pense qu'il ne faut pas communiquer via Teams. Il faut avoir un réseau téléphonique classique, il faut se rencontrer, il faut mettre les téléphones à l'extérieur de la salle. Enfin, des vieux réflexes que nous n'avons malheureusement plus depuis l'avènement des smartphones et d'un certain nombre d'outils de ce type-là.
Bon, la DGSI, je crois qu'on a dit ce qu'il fallait dire, je pense, hein, Philippe Latombe. Un sujet qui est un des sujets qui traînent depuis un petit moment déjà, les données des centrales nucléaires chez Amazon, chez AWS. Alors, ce ne sont pas les données de toutes les centrales, ce sont les données technologiques, ce sont des boulons, ce sont des... je ne sais pas comment ça s'appelle, toutes ces pièces, mais enfin, ce sont des pièces mécaniques globalement.
Maintenant, c'est logistique.
Donc, il y a des gens qui disent, mais on s'en fout que les Américains aient des données sur les boulons. C'est vrai qu'un boulon dans l'absolu, ça n'a pas d'intérêt, mais ça va bien au-delà. Le problème, il n'est pas au niveau du boulon. C'est ça, le truc.
Alors, rappelons, juste pour une mise en contexte, hein, qu'à partir de, je crois, 70 likes, hein, de trucs totalement anodins sur Facebook, on est capable d'extrapoler votre orientation politique, votre orientation sexuelle, votre religion et tout un tas de choses. Donc on imagine qu'avec des boulons, on peut extrapoler beaucoup de choses.
Alors, pour remettre l'église certainement au milieu du village, il faut se dire que aujourd'hui, EDF gère ses stocks n'importe comment. Ils gèrent leur stock à partir de bouts de papier, de vieux systèmes informatiques, et que du coup, de temps en temps, ils sont complètement en rupture de stock sur un certain nombre de pièces qui pourtant étaient stratégiques et qu'il aurait fallu avoir en stock, pré-stockées, etc. Et donc, ils se sont posé la question. C'est la conséquence de ce qui s'est passé il y a deux hivers. C'est que nous avons eu des centrales qui ont été en maintenance pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu, parce que nous n'avions pas les pièces en stock. Et donc, EDF a fait le job en se disant, comment est-ce que j'optimise ? Ils se sont rendus compte que les seuls qui aujourd'hui avaient une solution technologiquement fiable, c'était Amazon avec sa prédictibilité. Pourquoi ? Parce que la logistique chez Amazon, ils la connaissent par cœur, ils savent exactement comment ça fonctionne, et donc ils avaient développé un certain nombre de systèmes qui, je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes technologiques, ce sont quand même les meilleurs sur le sujet.
En termes de logistique, effectivement, on peut difficilement...
Ouais. C'est difficilement contestable que ce sont les meilleurs. Et donc EDF s'est dit, je ne me pose pas la question... Amazon sont capables de le faire, je le fais, et en plus je ne mets pas de données stratégiques, c'est-à-dire que je ne mets pas de données, j'ai pas les plans des pièces, en fait, j'ai des références de pièces. Sauf que, et c'est là où ça commence à devenir un peu gênant, c'est que quand on a les références de pièces, qu'on sait quelle est l'usure de ces pièces, la rotation de ces pièces, la disponibilité de ces pièces, on peut prévoir la maintenance de toutes les centrales nucléaires françaises. Et donc, ça veut dire qu'avec un peu de moteur d'intelligence artificielle, ce que sait faire Amazon, ils doivent pouvoir prévoir dans les 12, 24, 36 mois quelles sont les centrales qui vont produire, pas produire, quand elles seront à l'arrêt, pour combien de temps. Et donc, globalement, elles savent quelle est la production de l'électricité en France. Vous corrélez à ça des informations que peuvent avoir des services américains sur la météo. Vous avez à peu près les mêmes informations chez les Allemands et vous savez à quel niveau de déficit énergétique l'Europe est éventuellement dans une période hivernale. Et donc, ça nécessite de prendre des précautions quand on fait ce genre de transfert d'informations vers les Américains. En fait, la vraie question, c'est est-ce que nous avons aujourd'hui la capacité à avoir une filière de traitement des données hétérogènes qui permet de faire de la prédictibilité sur des outils industriels. Et le mauvais signe que donne EDF, c'est de dire que seul Amazon est capable de le faire. Ça veut dire que quand EDF dit ça, pour ses centrales nucléaires, une PME ETI va se dire « Amazon est le seul qui est capable de le faire, donc je prends Amazon ». Et donc, ça entraîne tout le monde vers Amazon. Et donc, ça nous lie totalement vers Amazon. Et l'État devrait plutôt se dire « Eh ben, moi, je dois créer une filière de traitement des données hétérogènes qui me permette de me passer à terme d'Amazon ». Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est la vraie question, à mon avis, qui se pose avec cette actualité d'EDF. C'est pas est-ce que la pièce numéro Intel est connue d'Amazon dans ses détails, dans ses moindres détails, de sa conception, de sa fabrication. C'est plutôt est-ce que Amazon est en capacité de savoir quand est-ce que nos centrales nucléaires vont être à l'arrêt pour maintenance et quand est-ce qu'elles vont pouvoir produire du courant et dans quelle mesure.
Voilà. Et est-ce que nous, on est en mesure de faire un outil assez rapidement qui soit concurrentiel à celui-là ?
On aurait dû. Quand je dis ça, c'est un vrai regret, puisque c'est Amazon est le meilleur aujourd'hui, mais il y avait un précédent. Le précédent, il s'appelle Foundry. C'est un outil qui était issu de chez Palantir, qui fait aussi du traitement de données hétérogènes, et que nous n'avons pas su, alors que c'était un logiciel qui, au départ, était censé être en direction de l'armée et de la DGSI, nous n'avons pas su construire cet outil-là, parce que nous avions pensé qu'il n'y avait pas de marché. Et on voit bien que, comme d'habitude, la défense, l'armée, est un début de commencement de marché pour ensuite s'adresser vers le grand public et vers l'économie en général. Et donc, on voit bien que la logistique, et d'ailleurs, quand je dis ça, je ne fais pas ça dans le vide, Airbus a utilisé Palantir pour faire l'entretien, pour prévoir l'entretien des avions qu'elle produit. Donc, c'est de la logistique. Et donc, en fait, on aurait dû intégrer ça dans le scope en se disant, à horizon 5-10 ans, nous avons besoin d'avoir cette filière-là.
D'autant plus qu'il me semble que le DG d'Airbus est devenu le président Europe de Palantir ou une chose comme ça, non ?
Ce n'était pas le DG, c'était un ancien d'Airbus qui est devenu le responsable de Palantir Europe, oui.
Voilà, donc à un moment, combien de temps ça va encore durer, tout ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est la même histoire avec différentes déclinaisons entre le S-Data Hub, ça, et puis c'est assez systématique maintenant.
Ouais, le S-Data Hub, on pourra en parler, on va essayer de le régler différemment. Mais en l'occurrence, là, nous avons une dette technologique qu'il va falloir combler. Avec le S-Data Hub, on n'a pas de dette technologique, on doit pouvoir le faire, ce n'est pas un souci. Là, on a une vraie dette technologique.
C'est ça. Oui,
c'est vrai. C'est vrai.
Oui. C'est ce que j'entends, c'est ça. C'est que là, le choix, quelque part, limite pour être cohérent ou logique, on va dire, par rapport au cahier des charges et ce qu'on recherchait pour un prestataire pour pouvoir être capable de ça.
Ce qui n'est pas le cas du S-Data Hub, c'est important de le rappeler.
Voilà. Donc, effectivement, ça pose une vraie question. Soit en passant aussi, peut-être qu'on en parlera plus tard, Philippe, mais ça pose aussi la question quand même de la commande publique, tout ça, parce que je crois que le montant, il est quasiment 900 millions. 860, il me semble bien.
C'est toujours un problème de commande publique, en fait. Non, mais le vrai souci, il est là. C'est que si nous fléchions, comme les Américains l'ont fait au départ, mais Amazon, comme Palantir, sont issus de la commande publique. Il faut quand même le remettre au début. C'est tout la mère des batailles, c'est la commande publique. Et la commande publique, au départ, de la défense, ou en tout cas de l'armée, ou chez les États-Unis, ou aux États-Unis, de la NASA. Mais ce que je veux dire, c'est que le départ de tout, c'est la commande publique de la défense ou de la NASA. Et aujourd'hui, nous n'avons pas su, parce que Palantir est arrivé à la DGSI en 2017, après les attentats. L'idée, c'était de dire, on prend la Palantir pour mettre à niveau la DGSI, mais en parallèle, on construit un logiciel qui nous permette de nous passer de Palantir à horizon 3 ans. Et comme d'habitude en France, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais on a oublié ce deuxième pilier qui était de construire un logiciel qui nous permette de nous passer de la dépendance. Et donc, on se rend compte, et on va accélérer, et on va dépenser des millions pour recréer un outil qui nous mettra à peine à niveau de Palantir ou de AWS dans 2 ans, parce qu'on sera en dépendance. Et donc, en fait, on manque de prospective, on manque de DARPA, on manque de réflexion à horizon moyen terme et long terme. Et quand moi, j'en discute, et j'ai eu une longue discussion, et ce n'est pas parce que c'est mon patron de parti avec François Bayrou, au commissaire au plan, il commence à, à s'intéresser à ça en se disant « on manque de perspectives dans les domaines technologiques, il faudrait qu'on fasse quelque chose ». C'est bien, c'est nouveau et ça me fait plaisir. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que c'est juste François Bayrou, c'est juste aussi parce que, mais c'est un peu comme la DGSI. On commence à avoir des warnings dans tous les coins et l'administration qui se dit « est-ce qu'on n'est pas en train de perdre globalement la capacité d'action ?» Et quand une administration se pose la question elle-même de sa capacité d'action, c'est qu'elle est dans une situation d'inquiétude assez forte.
Petite mise en perspective géopolitique, est-ce que ça change quelque chose le fait qu'on ait un président qui commence à parler de guerre, que la guerre en Europe physiquement commence à faire la une des journaux et qu'on ait un président américain dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne sera pas totalement 100% côté OTAN, qui peut arriver dans 6 mois. Est-ce que tout ça, ça change la donne en matière de souveraineté? Évidemment, la question est dans la réponse, ou le contraire, mais qu'est-ce que ça bouge?
Si j'étais très cynique, ce que je suis, alors je vais le faire, je pense que Trump est notre meilleur allié. C'est délirant de dire ça comme ça, donc il faut y mettre des guillemets, et si vous le coupez au montage, ça ne va pas aller, je vous préviens. Mais c'est notre meilleur allié. C'est aujourd'hui ce qui fait que tout le monde a peur. A peur que les Américains se replient sur eux-mêmes, et que ça soit Trump, ou que ça soit Biden, ou que ça soit n'importe quel autre, la situation aux États-Unis, avec une société qui est de l'intérieur, qui est totalement disrupté par rapport à la société de l'extérieur, des bordures, fait que le prochain président américain va devoir tellement recoudre sa société qu'il va se replier sur lui-même. Et malheureusement, ça ressemble à ce qui s'est passé dans les années 30. Fin des années 30, enfin milieu des années 30, deuxième partie des années 30. Et donc on a vraiment aujourd'hui cette inquiétude-là. Et je pense que c'est ça qui émerge aussi au sein de la société française, au sein de l'administration française, c'est de se dire comment est-ce qu'on se prépare à quelque chose où les Américains qui étaient nos alliés, qui étaient vaguement nos amis et qu'on pensait être vraiment nos amis, vont se replier sur eux-mêmes, vont être dans une opposition stricte avec les Chinois, parce qu'ils ont déterminé que c'était les Chinois leurs ennemis. Ce ne sont pas les Russes, ce sont les Chinois. Parce que, pour des raisons économiques, pour des raisons technologiques, pour des raisons maritimes, parce que c'est le Pacifique, et que le Pacifique a toujours été la chasse gardée des Américains depuis la Seconde Guerre mondiale, la question, c'est est-ce que l'Europe doit partir avec les Américains? Et si les Américains lâchent l'Ukraine, comment est-ce que nous, on fonctionne? On n'est pas en capacité de fournir des obus et des munitions et des
et encore des moins armes. Des hommes.
Et alors, la question, c'est sur les hommes, parce que de toute façon, je vois mal, mais Scholz l'a dit, je vois mal les Allemands envoyer des hommes au sol en Ukraine. Et donc, la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on évite cet alignement que veulent nous imposer les Américains.
Mais c'est encore possible?
Oui, c'est possible parce qu'un certain nombre de pays aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas pour rien que l'Inde a été invitée au 14 juillet dernier, parce que l'Inde est coincée entre une volonté d'ouverture au monde occidental et donc vers les Américains, mais aussi coincée vis-à-vis sa position géographique avec la Chine, coincée avec le Pakistan à côté, et donc on a la capacité de trouver des pays un peu importants dans le monde qui ont envie d'être non-alignés. Mais le non-alignement, ça n'est possible que si on est autonome. Et c'est toute la question de l'autonomie stratégique.
Et c'est possible avec un De Gaulle, le non-alignement, il faut un De Gaulle.
Oui, mais il faut un De Gaulle. Enfin, De Gaulle l'avait déjà théorisé. Je pense qu'il avait peut-être un peu d'avance. Mais là, en l'occurrence, avec la dette technologique que nous avons vis-à-vis des Américains, avec ce que nous achetons aux Américains qui a irrigué notre économie, il faut absolument que nous arrivions à nous désaligner des Américains sur ce sujet-là. C'est pour ça que je pousse mais tout le temps en permanence sur le fait que EUCS, donc sur le cloud, doit être avec une version diminutée aux règles extraterritoriales américaines. On doit avoir un ensemble d'outils qui nous permettent de nous passer le plus possible et des outils chinois et des outils américains pour rester le plus neutre possible, et de faire nos choix comme on en a envie. Peut-être que le choix sera de s'aligner avec l'un ou l'autre, je pense que ce ne sera pas avec les Chinois, mais il faut qu'on ait cette capacité de choix. Et aujourd'hui, on le voit bien dans la société, quand vous annoncez aux Français qu'il faut faire 10 milliards d'économies dans notre budget, mais qu'en même temps, vous annoncez 3 milliards pour les Ukrainiens, ça ne passe pas. Quand vous dites aux agriculteurs qu'il faut soutenir l'Ukraine, et donc on importe du poulet, des œufs ukrainiens, mais que d'autre côté, il crève la dalle, ça ne passe pas non plus. Et donc, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on soit cohérent dans notre politique économique, dans notre politique stratégique. Et ça passe par des efforts très importants sur le développement d'un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, l'IA pourrait nous le permettre. Et ça fera lien peut-être avec une question. Nous avons besoin de puissance de calcul. Et les Américains ont bien compris le truc. Et nous envoient Google s'installer en Europe. Et donc, créer un nouveau hub de recherche, notamment en France, parce que nous avons les meilleurs ingénieurs sur le sujet. Et en contrepartie, ils assèchent le marché des puces GPU pour éviter que nous ayons de la puissance de calcul. Et les Chinois, qui n'ont même plus accès à la création de puces GPU parce que les Américains leur ont bridé les marchés, sont en train d'acheter sur le marché secondaire, le marché d'occasion, toutes les vieilles puces GPU qu'ils peuvent trouver pour pouvoir garder le niveau dont ils ont besoin pour pouvoir se confronter aux Américains à terme.
Excusez-moi, je vais chercher, je dois avoir une vieille carte graphique dans un coin, je reviens.
elle vaut un fric d'enfer, Damien.
Non, mais une machine à laver.
C'est aussi pour ça que c'est bête, hein, mais vous n'avez pas les mêmes puces dans les téléphones partout dans le monde, vous n'avez pas les mêmes puces dans les PlayStation partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que les puces GPU aujourd'hui, elles valent la peau des fesses. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais elles ont une vraie valeur parce qu'on fait tourner de l'IA. Et c'est aussi pour ça que les Chinois aujourd'hui ont décidé de basculer une partie de leur énergie électrique vers des fermes de GPU à la place de l'envoyer vers des entreprises qui font des produits manufacturés classiques comme on en avait l'habitude. Pourquoi ? Bah parce que les puces GPU d'occasion, ça consomme d'enfer et qu'ils ont besoin de développer toute l'énergie vers ces fermes-là pour pouvoir faire de l'IA.
La peau des fesses d'un côté, ça veut dire 277 milliards de plus de valorisation en une seule journée pour Nvidia. Et donc aujourd'hui, si on veut faire de l'IA, si on veut faire une IA souveraine, alors là avec 14 guillemets quand on parle de Mistral par exemple, on a besoin de ça, on a besoin de puces, et notamment de puces Nvidia. C'est un des vrais enjeux, c'est-à-dire qu'on est d'un côté en train de dire, bon, on est capable, regardez, avec quelques gugus qui sont des bons matheux français, des types formés à l'université française, d'aller beaucoup plus vite que n'a été ChatGPT avec beaucoup moins de moyens, c'est Mistral, même s'il y a de l'argent américain, mais en tout cas le savoir-faire, il est pour une bonne partie français ou européen dans cette histoire, et on a besoin de puces pour faire tourner tout ça, et là ça pose problème quand même.
Mais c'est tout le pari des Américains, c'est de se dire qu'ils ont besoin des talents français pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des talents vraiment très intelligents et très bien formés en termes mathématiques, mais aussi avec une dimension managériale. Les Américains forment de très bons ingénieurs, mais ce sont des ingénieurs, et vous le voyez d'ailleurs, ça se voit dans les startups qui deviennent des grosses entreprises américaines, le fondateur est assez vite éjecté au profit de managers qui viennent d'Harvard ou d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que chez eux, on ne peut pas être à la fois tech et manager, même s'il y a des exceptions. Alors qu'en France, on a des techos qui deviennent managers et qui sont en capacité de... Et puis, ces managers techos français ont plus forcément, notamment parce que Trump est une menace, n'ont plus forcément envie d'aller aux États-Unis pour vivre leur vie professionnelle, mais ils ont toujours envie d'avoir l'appellation Google, Microsoft, etc., parce que c'est bien sur un CV aussi. Et donc, c'est pour ça que Google vient s'installer en France et installe un centre de recherche. Les Américains ont compris que la puissance de calcul était aussi, le hardware était quelque chose d'important. Et donc, depuis plusieurs mois, ils ont encouragé les entreprises américaines à acheter tout ce qui pouvait traîner comme puce. Ils ont bloqué le marché pour les Chinois en interdisant à la seule entreprise qui fabrique les machines, qui fabrique les puces, qui est une machine hollandaise, une entreprise hollandaise, de vendre à la Chine ces machines. Et pourquoi ils le font ? Parce qu'ils ont compris qu'on était très intelligent, on est en capacité de rattraper notre retard, mais sans la puissance de calcul, on ne la rattraperait jamais. Et donc, il nous faut de la puissance de calcul. Et ils ont accessoirement compris que la puissance de calcul en France que nous avions chez Atos était en difficulté en ce moment du fait des difficultés économiques d'Atos, et que l'un dans l'autre, ils avaient une fenêtre d'opportunité qui était de récupérer la totalité du marché. Et effectivement, ils ont Nvidia qui est le leader sur le sujet. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a quelques années, quelques mois, ARM et Nvidia n'avaient pas réussi cette opération d'absorption de la part de Nvidia sur ARM. Parce que là, par contre, on n'avait plus du tout de puces, on n'avait plus rien de possible du côté des pays occidentaux. Aujourd'hui, le soft qui était devenu le plus critique est en train de se faire un peu rattraper par le hard. C'est pas si mal.
Ça semble quand même très très chaud de remonter la pente sur la fabrication de puces, autre que celle d'NVIDIA, là, pour le coup.
Oui et non. Il y a une petite boîte qui s'appelle Grok, qui oui, est en train de vrai. Sortir du bois, qui a quelque chose de très nouveau en termes de conception, et qui permettrait, si on était intelligent, alors il ne faudra pas en penser qu'on va racheter Grok, hein, c'est juste pas la peine d'y penser, c'est le truc qui est verrouillé dans tous les coins, mais je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'a fait Grok pour voir si on n'a pas la capacité de produire des puces moins chères, plus accessibles et moins gourmandes en énergie. On a peut-être les ingénieurs pour designer ça, et l'idée de Thierry Breton, qui avait quand même de relancer une filière de production de puces du côté de Grenoble, est intelligente. Elle était peut-être un peu en retard, mais il faut qu'on accélère sur le sujet. À court terme, ça veut quand même dire qu'il faut qu'on ait un plan européen d'achat de puces. Il faut quand même qu'on se pose la question.
Mais oui, mais en fait, on a l'impression que il faut un plan européen ou français de plein de choses, finalement, pour arriver à soutenir. Parce qu'il y a la question des financements qui va derrière. C'est ce qui est en creux. Si on prend Mistral AI et qu'on regarde le tour de table aujourd'hui, je me suis engueulé avec quelqu'un aujourd'hui sur X parce que je disais qu'en gros, la boîte était quasiment plus française. Et en gros, la réponse est oui, mais les fondateurs, ils sont majoritaires. D'abord, personne ne connaît aujourd'hui la distribution du tour de table. Puis on va pas se mentir, hein, si même ils sont majoritaires, tant mieux pour eux, mettons de côté Cidrico, eh bien, on constate aussi qu'on a juste derrière du Salesforce. Vous en parliez tout à l'heure, Philippe. On a du Microsoft maintenant. On a pas mal d'acteurs américains. Oui, on a de la BPI qui traîne, du BNP. Mais enfin, on va pas se mentir, quoi. Il manque tous les gros acteurs lourds. Il y a pas du Dassault Systèmes. Il y a pas d'Orange. Il y a pas de gros acteurs qui, à la rigueur, qu'on pourrait attendre légitimement sur un acteur comme celui-là en se disant, bah, on va tous le soutenir parce que cette fois-ci, ça peut le faire. Ils sont pas là.
Deux choses. La première, c'est oui, notre écosystème à nous. Économique est toujours un écosystème qui s'est cloisonné, qui a refusé de chasser en meute, de fonctionner ensemble, de se soutenir. C'est pas dans les gènes des boîtes européennes et notamment des boîtes françaises. Et donc ça, il va falloir qu'on le change. Et si on le change pas, effectivement, on se tire deux balles dans le pied à chaque fois. La deuxième chose, c'est que la France aujourd'hui, même si elle voulait soutenir Mistral, n'a pas la capacité financière à aller acheter des puces à la place de Mistral. On est en train de faire un plan d'économie de 10 milliards parce qu'on n'est pas dans les clous budgétaires. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui la France toute seule pourrait soutenir la croissance de la puissance de calcul nécessaire à l'IA européenne. Donc il faut forcément que ça soit un plan européen. Et quand je dis un plan européen, c'est un plan qui est financé par l'Europe avec des ressources propres de l'Europe et pas des ressources qui sont apportées par les pays. Puisque je vois mal la Pologne commencer à vouloir y mettre 2 milliards pour acheter des puces pour Mistral. Ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas comme ça. En revanche, nous avons besoin d'avoir une stratégie européenne globalisée. Et ça, c'est une vraie question qui va se poser après les élections européennes de juin, parce qu'il va falloir que l'Europe tire dans le même sens. Or, les 27 ne sont pas aujourd'hui dans la même logique les uns avec les autres. Et on le voit d'ailleurs bien après ce qu'a dit le président de la République sur l'Ukraine hier, qui aujourd'hui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union européenne. Et donc il va falloir qu'on ait ce que nous commençons à faire nous en France, il faudra qu'on arrive à le faire infuser dans un certain nombre de pays européens pour qu'on puisse tirer dans le même sens l'Union européenne. C'est la partie la plus difficile.
On est d'accord, il ne s'agit pas de dire on va faire un truc avec l'Europe, on va commencer chez nous et puis on verra si l'Europe suit.
On n'a pas aujourd'hui la capacité en France d'acheter la puissance de calcul.
Pas forcément sur les puces, hein, mais d'une façon générale, sur ce besoin de souveraineté européenne, il commence à notre porte.
Oui, oui, il faut absolument que... Enfin, ce que nous reproche l'Europe aussi, et nous l'a reproché pendant très longtemps, c'est de dire, mais vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut une souveraineté numérique. Vous, ce que vous faites avec vos données de santé, c'est exactement l'inverse de ce que vous nous demandez de faire. Donc commencez par regarder la poutre dans votre œil plutôt que dans la paille dans l'œil du voisin. Bon, et effectivement, nous avons besoin de montrer l'exemple, de montrer vraiment l'exemple. Il ne faut pas que la France soit simplement le chevalier blanc qui arrive au dernier moment en disant « voilà comment est-ce qu'il faut voir les choses ». Ça nécessite aussi de travailler dans tous les groupes de travail européens. Et aujourd'hui, nous avons ce déficit-là. Nous ne travaillons pas assez dans ces groupes techniques, intermédiaires, qui arrivent à une solution. Voilà. Et donc, il y a un sorte de changement de paradigme à faire au niveau du fonctionnement français sur ce coup-là.
Bon, en même temps, il y a eu une période où Ursula von der Leyen a discuté quand même le bout de gras avec le président américain. Lorsqu'on avait besoin d'essence notamment, pour un échange avec des données, de ce que je crois. Hein.
Oui, mais là aussi, mettez-vous à la place de Van Allen, qui est allemande. Donc, voilà, mais mettez-vous à sa place. L'Allemagne était le moteur économique et le moteur budgétaire de l'Europe. Et donc, si le moteur, allemand s'éteignait, il y avait un problème. Ce n'est pas avec le déficit budgétaire français qu'on va tenir l'euro. C'est parce que les Allemands avaient un excédent budgétaire, tenaient bien leur fonctionnement budgétaire, qu'on avait un euro qui était relativement fort et qui permettait de pouvoir avoir de la stabilité. Et donc, on a cette question-là. Et donc, l'Allemagne a dit, bah, nous, on commence à avoir des difficultés, on a des problèmes d'approvisionnement en gaz. Van der Leyen, elle a trouvé la solution. Elle est allée voir les Américains en disant, fournissez du gaz. Si le moteur allemand économique s'éteint, le moteur économique européen s'éteint. Donc, il y a une sorte de pragmatisme de la part de la Commission qu'il va falloir transformer en... C'est à la fois du pragmatisme qu'il faut avoir, mais aussi se rendre compte que les Américains ne sont pas simplement sont pas des amis, ce sont des alliés, et encore parfois ne le sont plus parce qu'ils ont leurs propres contraintes. Mais et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on réagit?
C'est du pragmatisme ou c'est du court-termisme?
Mais c'est les deux. Le pragmatisme, c'est forcément de la vision à court terme. C'est si le moteur économique allemand s'éteint, comment est-ce qu'on tient l'euro? Ensuite, la vraie question, c'est comment est-ce que je ne brade pas mon avenir par des solutions pragmatiques de court terme? Et là, aujourd'hui, c'est la vraie difficulté dans laquelle nous sommes, parce que autrefois, les cycles économiques étaient relativement longs, et donc il n'y avait pas de difficulté pour changer de fusil d'épaule au bout de 3 ans. Comme les cycles économiques étaient de 15, 20, 30 ans, l'industrie allemande, elle s'est faite sur des cycles très longs. Là, c'est des industries de sidérurgie, ce sont des industries de voitures sur lesquelles il y avait des développements très longs. Or, aujourd'hui, c'est ça la difficulté, les cycles économiques se sont raccourcis à une vitesse phénoménale. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de ChatGPT et des autres. Il y a 3 ans, on en parlait à peine. On savait que ça allait arriver, mais là, ils sont quotidiennement et avec des puissances qui sont phénoménales de mois sur mois. Donc, les cycles économiques sont beaucoup plus courts. Les Allemands n'ont pas l'habitude de fonctionner sur des cycles économiques aussi courts parce que c'est culturellement pas leur façon de fonctionner. Et donc, on a un problème de relation entre le court terme pragmatique, le moyen et le long terme. Alors que les Américains ont toujours été très, très axés sur le moyen et le long terme. C'est pour ça qu'ils ont une DARPA, c'est pour ça qu'ils sont allés sur la Lune, c'est pour ça qu'ils ont un certain nombre d'objectifs de long terme qui drainent leur économie. Ce que nous n'avons pas, nous sommes plutôt en réaction, ce qui n'est pas forcément ce que tu as.
Mais paradoxalement, enfin, sans vouloir remonter au calendrier grec, la base de la construction européenne, c'était la CECA et c'était, on va dire, une volonté industrielle de vouloir constituer notamment un axe franco-allemand, le fameux axe franco-allemand qui fait ce qu'il peut et qui marchotte, mais justement... dans tout cela aujourd'hui, l'IA, les puces, les semi-conducteurs, etc., etc. Il est aux abonnés absents, ce fameux axe franco-allemand qu'on ressortait régulièrement justement pour dire on fait des trucs avec eux.
Nous sommes en réel divorce en ce moment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ça n'engage que moi. Hein. Je suis pas le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Europe. Donc, Mais je sens un vrai divorce entre les deux gouvernements, entre les deux visions, parce que nous avons sociétalement et économiquement des visions différentes. Je pense que, par contre, les populations ne sont pas tout à fait aussi divorcées qu'elles ne le sont. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi proche des Allemands. Enfin, moi, j'ai des contacts avec des Allemands professionnellement, mais aussi personnellement, où on a des inquiétudes communes. La vraie question, c'est est-ce que les gouvernements, les administrations représentent vraiment, et ça c'est une question, j'allais dire, métaphysique, démocratique, c'est est-ce que les gouvernements représentent vraiment la population et font vraiment les choses pour la population, pour essayer de répondre à leurs demandes, ou est-ce qu'elles s'auto-satisfont de ce qu'elles font? Et on le voit avec les Hollandais aujourd'hui, le gouvernement hollandais ne représente pas le vote qui a eu lieu il y a quelques mois. Et on voit bien que la logique de coalition en Allemagne pose un problème de surpondération d'un ensemble de petits partis dans la coalition qui leur donne beaucoup de pouvoir. Et qu'en France, le gouvernement ne représente pas la totalité du Parlement et donc de la sensibilité. Et donc il y a une sorte de décrochage démocratique qui fait que du coup, on a un divorce entre la position française, la position allemande et la position européenne qui surplombe le tout. ce qui va se passer avec Trump va nous réinterroger sur ces questions démocratiques. Ce qui se passe avec la Russie nous réinterroge sur ces questions démocratiques. Et donc, il va falloir qu'on ait, à la lumière en plus des évolutions technologiques qui sont très rapides, il faudra qu'on ait une évolution de notre vision de la démocratie de façon très rapide aussi. Et qu'il faut qu'on réinterroge assez régulièrement, mais ça c'est un avis personnel, la population, pas simplement au gré d'élections tous les 5 ans, mais aussi dans le fonctionnement quotidien, parce que c'est absolument important de pouvoir avoir la température de notre population.
C'est le projet de Marine Le Pen, ça. Le choc démocratique, c'est...
Ouais, mais, enfin, on l'appelle comme on veut. Je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen, mais il faut qu'on arrive à voir aujourd'hui qu'on garde le contact avec la population.
Et ce n'est pas gardé, il est perdu.
Mais il faut qu'on garde, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de garder un lien avec la population en dehors des élections. Parce que sinon, à chaque fois, on remet en jeu tout. Et quand on remet en jeu tout, il peut se passer, d'autant plus maintenant avec la capacité à avoir des influences étrangères de façon très importante, on peut tout perdre. Enfin, les Anglais l'ont fait avec le Brexit. Ils n'ont pas voulu comprendre un certain nombre de choses qui étaient des signaux faibles préalables. Et du coup, ils se sont embarqués dans quelque chose qui les a mis dans une situation où ils sont pas en capacité de s'en sortir. Les Américains ont fait pareil. Et ce n'est pas simplement que la France ou l'Allemagne, ce sont tous les pays démocratiques qui sont confrontés à cette question. Je n'ai pas la solution. Si j'avais la solution, je serais Merlin l'Enchanteur et je ne serais pas en train de vous parler ce soir, je serais en train de faire autre chose. Mais je pense que nous avons besoin absolument de retrouver du lien avec la population, d'autant que les choix technologiques et l'évolution technologique fait que la population est assez vite débordée par ce qui arrive. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais Madame Michu, l'intelligence artificielle, il y a 3 ans, elle n'entendait pas parler. Là, elle le voit avec ChatGPT, avec des fake news, avec des deepfakes, avec un certain nombre de choses. Mais même l'administration n'a pas intégré les deepfakes dans la chaîne pénale. Qu'est-ce qu'on fait quand un juge a une image truquée en face de lui qui dit que Monsieur Machin n'était pas à tel endroit à telle heure, mais il était à l'autre bout de la France? Est-ce qu'il a la capacité aujourd'hui d'être sûr que c'est quelque chose qui a été vrai ou qui a été fabriqué? Et ça, aujourd'hui, même l'administration ne s'est pas posé la question. Ça réinterroge la totalité de notre démocratie. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Pardon, on a digressé, ce n'était pas l'objet.
Bon, on a un exemple qu'on peut regarder qui n'est pas très loin, c'est la Suisse. Déjà, ils ont 2-3 idées quand même en matière de démocratie un petit peu liquide. Donc, peut-être qu'on pourrait déjà s'inspirer 2 secondes de ce qui se passe là-bas. Peut-être pas en faisant une votation toutes les 3 jours non plus, mais il y a moyen de faire quelque chose quand même, hein, pour créer un lien avec la population.
Après, c'est clair que ça réorienterait très, très différemment la politique, que la direction que la France a prise depuis des décennies.
Oui.
Parce que l'écart s'est tellement creusé depuis tellement longtemps que si tout d'un coup, c'est la population qui décidait des grandes orientations politiques du pays, on irait dans une direction très, très différente, hein.
Oui, mais d'un autre côté, est-ce que la population n'a pas envie d'avoir son mot à dire sur les grandes orientations?
Ah, bien, ça,
et ensuite,
c'est évident.
Et bah, d'avoir une sorte d'objectif partagé, commun, et qui permette d'aller vers. C'est aujourd'hui une des questions. La vraie question, c'est est-ce que c'est à la population de définir l'objectif? Et ensuite, dans sa mise en œuvre, est-ce qu'elle doit intervenir et à quel moment elle doit intervenir? Mais quand je vois, moi, le fonctionnement des États-Unis, ils ont des votations quasiment chaque fois qu'ils ont des élections. Les électeurs américains, dans les États, dans les comtés, répondent quasiment à 150 ou 200 questions par vote. C'est pas pour autant que ça a rapproché totalement les Américains de la sphère publique. En revanche, quand on dit aux Américains qu'il y a un objectif général qui est que les Américains soient les meilleurs du monde, soit en capacité d'aller sur la Lune, puis sur Mars avant tout le monde, et qu'ils doivent avoir la paix, la prospérité, quel qu'en soit le coût, ils sont tous d'accord et ils soutiennent tous le truc. Donc il y a une sorte d'équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver, je ne sais pas comment, mais la construction européenne ne pourra plus se faire sur simplement la base d'adjonction de pays. Je pense que...
Bon, puisque les Américains sont si forts, je vous propose, Philippe Latombe, de terminer sur la cerise sur le gâteau que j'annonçais tout à l'heure, avec des Américains, Google d'un côté, Microsoft de l'autre, qui s'accusent, alors Google accuse surtout Microsoft de viser un monopole sur le cloud. C'est une information qui nous a pas mal fait sourire. Et vous ?
Ah ben moi, ça me fait rigoler, mais dans un panier de crabes, en fait, tout le monde est un crabe. Donc ça veut dire que si Google dit que Microsoft est méchant, c'est que Microsoft doit être méchant, mais que Google doit être méchant aussi, parce que sinon, il ne le dirait pas comme ça. Donc, on le voit bien, enfin, c'est clair, le marché est dominé par des acteurs qui sont connus, qui sont très peu nombreux, et que leur croissance aujourd'hui ne passe que par la prise en compte des parts de marché des autres. Ils sont arrivés au point où ils sont obligés de se bouffer entre eux pour pouvoir grossir. Or, leurs actionnaires demandent de grossir. Donc, Google attaque Microsoft parce que Google a raté le virage de l'IA, que Microsoft l'a bien pris, et que du coup, Google se dit « Mais ça me rappelle un truc, ça me rappelle Elon Musk quand il a dit qu'il faut faire un moratoire sur l'IA. » Il ne l'a pas fait pour être gentil. Il l'a simplement fait parce qu'il avait raté totalement le train et qu'il fallait qu'il gagne un peu de temps pour pouvoir essayer de récupérer le truc. Et ben, c'est la même chose avec Google. Simplement, ça se fait sur la base d'attaques juridiques sur la question du monopole. Bon, voilà.
Et c'est vrai que dans le genre ratage du virage de l'IA, Google a vraiment fait une sortie de route pour le coup.
Ils se sont totalement fous, ils sont totalement ratés. Et donc, comme ils ont vu que Microsoft avait pris tous les bons choix, tous, et d'ailleurs, ce qu'ils font avec Mistral est aussi un bon choix, Google se dit, la seule façon que j'ai de pouvoir freiner Microsoft, c'est de les attaquer en justice au titre de vous êtes monopolistique, ça va pas, on va essayer de vous trouver.
Mais Google qui attaque quelqu'un en disant vous êtes monopolistique, c'est quand même, franchement, c'est le gag de la décennie, quoi, vraiment.
Oui, mais bon, dis-toi que Google, ils ont quand même en travers d'être les inventeurs du modèle Transformer, qui est le modèle qui a donné naissance à tous les chats GPT, enfin tous les moteurs qui sont derrière les LLM. Donc si tu veux, ils sont aujourd'hui un peu dans la position de Kodak. Ils ont inventé un truc qui est utilisé par d'autres et dont d'autres ont le succès. Et ils sont passés à côté. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, pour nos auditeurs, Kodak avait inventé la photo numérique, mais ils sont arrivés parmi les derniers sur le marché de la photo numérique et ils sont morts de ça. Donc c'est ça qui est assez fou avec Google, parce qu'il y a un vrai souci de leur côté.
Voilà. Donc le modèle économique de Google souffre sur la pub, sur un certain nombre de sujets. Ils sont attaqués un peu de partout sur la question de la privacy et donc ça ne va pas. Et ils ont raté le virage de l'IA alors qu'ils étaient les mieux placés au départ vu toutes les données qu'ils pouvaient avoir. Et donc forcément, la seule façon qu'ils ont de survivre, c'est d'attaquer Microsoft pour gagner du temps, pour essayer de rattraper le retard. Et d'ailleurs, pour investir, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont acheté beaucoup, beaucoup de puissance de calcul pour essayer de rattraper tout ça.
Donc ça veut dire que dans 5 ans, dans le mot GAFAM, il n'y aura plus le G, mais il y aura un S, ce sera Salesforce. Et finalement... Ça...
Alors, je le dis sans plaisanter, c'est une vraie inquiétude. Pour moi, aujourd'hui, Salesforce, c'est un sous-jacent de beaucoup de sujets.
Comme Doctolib, par exemple.
Je prends Doctolib, Doctolib est un spin-off de Salesforce, faut se le dire comme ça.
On a le droit de le dire aujourd'hui sans être complotiste, hein.
Bah, je sais pas, moi je le dis, donc c'est pas un souci.
Donc en fait, Doctolib, c'est du Salesforce, quoi.
Oui.
En gros.
Bah oui, c'est du Salesforce, c'est un spin-off de Salesforce.
Un peu comme Bing, comme Quant et du Bing, quoi.
Salesforce est en train de prendre des parts de marché dans le CRM de partout, donc mettre la main sur les données clients de beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et d'après ce que moi j'en comprends et de ce que j'en sais, Salesforce est de plus en plus en train de se passer des intégrateurs pour rentrer dans les entreprises. Ils y vont directement sans plus passer par des intégrateurs. Donc on n'a même plus besoin d'intégrateurs qui étaient pourtant une des forces françaises avec des grosses boîtes connues.
Ça ne crée même plus de petits emplois pour les petits ouvriers.
Ben voilà, donc c'est quand même gênant. Cette volonté, cette gloutonnerie de Salesforce commence à m'inquiéter beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Bon, alors si on enlève le G à GAFAM et qu'on met un S, ça peut faire les FAMAS. Et finalement, on est dans le réarmement, on est dans l'actualité.
Oui, alors je vous rappelle que les FAMAS, on a arrêté de les utiliser dans l'armée française, on a utilisé plutôt des solutions allemandes, hein, de mémoire.
Allemandes, tout à fait, oui. Tout à fait.
Et il faudra qu'on fasse un épisode sur Salesforce. C'est une
entreprise. Je voulais faire sur les FAMAS, je ne voyais pas que je fasse tout.
Non, alors les FAMAS, on n'a pas d'expertise particulière, mais Salesforce, on devrait faire une émission sur Salesforce parce que c'est très peu connu.
Ah, complètement, oui, tout à fait.
Alors que c'est une entreprise énorme et très importante dans la construction de l'Internet moderne.
Mais je finis sur Salesforce. Salesforce, intervenant au capital de Mistral, ce n'est pas pour rien.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire que Salesforce a la capacité maintenant d'investir et d'acheter des boîtes qui... Donc, ils refont le processus que les GAFAM ont pu avoir à une époque d'acheter pour soit intégrer, soit neutraliser. Et il y a une vraie dynamique, Salesforce.
Pour Salesforce, en deux mots, quiconque a déjà assisté à leur grande messe annuelle qui s'appelle Dreamforce, qui passe sous le radar parce que ça, c'est pas très sexy, on préfère aller voir une Apple Keynote, hein. C'est juste fou. Je veux dire, ils ont une puissance technologique et une maîtrise de ce qu'ils proposent aux entreprises en termes d'exploitation de leur CRM depuis des dizaines d'années. Donc il paraît même complètement logique et évident que l'IA étant un outil qui est motorisé par de la data, c'est logiquement les premiers acteurs sur le marché puisqu'ils ont la maîtrise de savoir mettre cette data au carré pour l'exploiter. Donc c'est l'évidence et effectivement c'est même surprenant qu'ils ne soient pas sortis plus tôt du bois effectivement.
Et quand on change de CRM, on ne change pas de CRM pour 5 ans, hein. On change de CRM pour 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont durablement implantés dans le paysage vu les parts de marché qu'ils ont, et donc ils sont dans le tropisme classique de l'entreprise qui devient tellement importante que le voisin qui n'a pas Salesforce a besoin de Salesforce pour essayer de rivaliser avec l'entreprise d'à côté qui l'a. Et donc on est sur une logique de croissance très importante et d'implantation durable dans le paysage. C'est pas un ovni, ils vont rester longtemps.
Bon, c'est un bon teasing pour la prochaine fois que vous allez venir nous voir, Philippe Latombe.
Je vous en prie.
J'ai l'impression qu'on va devoir faire un truc. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet là. Il y a un vrai truc là-dessus. Bon, on a parlé de plein de sujets différents. Je pense qu'on a dit pas mal de choses intéressantes. J'espère que vous allez pouvoir commenter tout ça et participer à la discussion qui continuera également. Damien, tu nous fais un petit lancement là, sur la suite des opérations ?
Oui, alors écoutez, ce soir on a divulgué que les GAFAM allaient devenir FAMAS, qui n'a rien à voir avec le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, vous le savez, qui était un peu le Concorde du fusil d'assaut français.
Mais plus Manu France, ouais,
tout à fait, monsieur, exactement, pensez à Saint-Etienne. Eh bien, dans tous les cas de figure, si vous avez aimé cette conversation, que vous avez envie qu'elle continue, eh bien, dites-le nous comment. Eh bien, c'est très simple, vous nous mettez des petites étoiles sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, Apple Podcast, Spotify ou autre, hein, mais on vous dit ces deux-là parce que c'est celles qui sont un peu les poids lourds du marché, ça nous fera plaisir, ça nous fera remonter aussi dans les classements, et puis surtout vous pouvez nous laisser un petit commentaire aussi sur cette plateforme ou bien tout simplement sur X, anciennement Twitter comme l'on dit, ça nous fera plaisir, X Twitter sur lequel il nous arrive aussi de faire des lives les mardis soirs, surveillez-nous, il arrive aussi à Philippe Latombe d'y passer de temps en temps, décidément, il a le rond de serviette et en plus il aime bien venir prendre le café.
Merci beaucoup, nos hommages monsieur le député Philippe Latombe.
Merci beaucoup à vous. Toujours un plaisir.
Merci Philippe, merci à bientôt.
Et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Damien.
À très bientôt.
Merci bien. Fabrice.
Merci Bertrand.
Et on se retrouve a priori la semaine prochaine. Salut à tous.
Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douany et Fabrice Eppelboin. Vous avez aimé ce podcast ? Retrouvez-nous sur leséclaireursdunumérique.fr.